rayon BD, Ludovic de Berme, l'imaginaire et la mesure du monde.
Cette chose vous semble peut-être humaine. Ça se tient sur deux jambes, pas vrai? Mais le Seigneur nous a créés à son image. Vous ne pensez pas que le Seigneur ressemble à ça?
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Rayon BD pour une émission qui va lorgner aujourd'hui du côté du fantastique avec un auteur aussi important qu'il est singulier, un auteur qui construit depuis bientôt 20 ans une œuvre étrange et magnifique qui puise aux sources de la psychanalyse, du rêve, du merveilleux et de l'intime, j'ai nommé Ludovic de Berme. Ludovic de Berme qui publie ces jours-ci le troisième et dernier tome d'Epiphania chez Casterman, une trilogie fantastique donc, qui mêle à des obsessions anciennes de son auteur, la paternité, le désir, l'animalité, la violence, qui mêle donc à ces obsessions la question écologique centrale, celle de la place de l'humanité sur la Terre, de sa relation avec le vivant et le non-vivant, et d'une fin du monde possible, ou en tout cas de la fin d'un monde, celui qui met l'humanité au centre et au sommet de l'écosystème. Les épiphaniennes, ce sont des êtres hybrides, mi-humains, mi-animaux, qui surgissent de la Terre à la suite d'un raz-de-marée. Les hommes, d'abord hésitants, vont rapidement les parquer dans des camps, en faire des objets d'expérience scientifique et inhiber, chimiquement, l'agressivité croissante de ces individus qui, à l'adolescence, se voient pousser des griffes, des crocs et des cornes. Mais certains d'entre eux s'échappent, s'organisent, se constituent en groupes terroristes bien décidés à éradiquer l'homme de la surface de la planète. Dans ce groupe, le héros de cette histoire, Koji, un jeune homme aux pattes de faon, est tiraillé entre la violence qu'il ressent envers les humains, le désespoir que lui inspirent ses congénères stupides et brutaux, et l'amour qu'il a pour son père, David, un humain qu'il a sorti de terre, élevé et aimé. Le tome 2 s'achevait sur un cas de conscience de Koji. Allait-il laisser les épiphaniennes terroristes commettre un gigantesque attentat, ou l'empêcher en prévenant son père? Et ce tome 3 s'ouvre dans le feu, avec 5 grandes images en pleine page, et Koji qui raconte. Mes frères au dessin trop sombre, que j'ai dénoncés, croyant qu'on sauverait au moins leur vie, ont hérité d'une fin qu'on réserve d'habitude aux mauvaises herbes, aux arbustes contaminés, aux lianes sèches. Au fond de ce souterrain, ils produisirent la même fumée noire, opaque, aveuglante. Que vaut la parole échangée entre un monstre et son père adoptif face à la justice des hommes? Ils étaient devenus fous, sans plus d'empathie ni de raison, drogués et asservis. Mais leur mort m'a brisé. En attendant le procès, dans la solitude du cachot, j'allais pouvoir questionner la souffrance que je leur avais fait subir. Le procès d'une espèce dont on ne retiendrait plus jamais que la seule part monstrueuse, dont la part d'humanité semblait avoir déserté jusqu'à la moindre cellule, quoique les tests ADN aient pu prouver le contraire. Bonjour Ludovic de Berme.
Bonjour Victor.
Alors ça y est, vous arrivez au bout de cette trilogie d'Epiphanian. Est-ce qu'elle se termine comme vous l'aviez imaginé?
Alors j'avais pas imaginé la toute fin. Je m'étais réservé cette possibilité. En fait, en réalité, pour chacun de mes livres, je n'imagine jamais la toute fin. La plupart des autres, mes autres livres sont plus improvisés. Celui-ci avait quand même une ligne directrice et enfin un scénario même assez tenu comme ça du début à la fin. Mais il y avait cette fin qui particulièrement nécessitait de mûres réflexions. Et d'être conduit tout au long de ces trois livres, moi-même, en cherchant avec ces épiphanias, à trouver cette fin, qui finalement peut se résumer à est-ce que l'humanité va périr dans le gouffre qu'elle a ouvert, ou est-ce qu'il y a une issue? Voilà, c'était ça la question.
En fait. Et ça, vous ne le saviez pas au début, même cette grande orientation. Enfin,
je ne savais pas si j'allais laisser mon pessimisme parler, ou si j'allais ouvrir une brèche, de quelle façon, comment. Et pour y répondre, je sentais qu'il me manquait d'armes. Et ces armes, je pense, ont été à la fois le dessin, le fait de simplement dessiner ces livres, aussi les rencontres, c'est l'avantage de faire une série, c'est que ça prend du temps, et que dans ce temps, il y a des gens qui viennent à vous, qui ont été touchés, et qui, des militants, ou des gens d'endroits très différents, et qui vous enrichissent. Et aussi, l'arme absolue, c'est le fait de lire, d'écouter, le savoir, quoi, mais une espèce de savoir un peu bricolé, parce que Voilà, j'ai jusqu'ici surtout travaillé sur une sphère qui me semblait légitime, c'était la sphère de l'intime, donc ça parlait de mon intériorité. Puis j'avais cette appétence pour la psychanalyse et que j'avais quand même pas mal aussi étudié en plus d'être en analyse. Donc je savais à peu près de quoi je parlais quand je parlais de Lacan ou Freud. Et puis de la philosophie, la sociologie, c'était des choses que j'assumais de dire. Là, d'un seul coup, il fallait que je me rendais bien compte qu'on pouvait pas dire le capitalisme, que ça n'avait pas de sens, qu'il fallait commencer à faire des différences entre les capitalismes, parler du néolibéralisme. Si on parle environnement, en fait, rapidement, on parle de cette question-là, quoi. Donc, c'est ce savoir-là qu'il a fallu que je désenclave.
Alors cette question politique, elle sous-tend l'ensemble du récit, mais qui en effet part de l'intime. Le premier tome, c'est la relation de Koji avec son père David, qui est un peu au cœur. Le deuxième tome, c'est le groupe qui se constitue. Et là, le troisième, c'est les questions véritablement, explicitement politiques, avec en particulier dans ce début très sombre dont j'ai lu les premières pages, l'arrivée d'une instance qu'on n'avait pas eue jusque-là, c'est le droit. Et là où les scientifiques, qui étaient assez présents dans les deux premiers tomes, n'ont pas répondu, ont échoué peut-être en hésitant. Est-ce que ne pas répondre, c'est échouer pour la science? Vous avez sans doute un avis là-dessus, mais c'est le droit qui donne une réponse et qui donne une réponse nette. En l'occurrence, les Epiphanians ne sont pas des humains, sont même exclusivement des animaux.
Oui, alors cette question est très intéressante. Alors, j'ai essayé de répondre à tout, parce qu'en fait, il y a trois questions en une.
Je suis assez fort pour ça.
Vous allez m'aider à m'y retrouver. D'abord, les Epiphaniens sont à la fois donc des hommes et des animaux, ce qui me permet en fait de parler des humains avec cette espèce de filtre, mais ce sont rien d'autre que des humains, mais ce sont aussi des animaux, et ça me permet de parler du droit animal, qui est une question... ô combien importante et à laquelle nous sommes irrémédiablement liés, comme au reste du vivant, bien sûr, dont nous faisons partie. Je pense qu'entre ces trois tomes, comme vous l'avez bien dit, il y a une évolution. Le premier, ça serait plutôt celui de la sphère comme ça, de l'intime, cette relation familiale où Koji et son père interagissent. Mais on sent déjà qu'on est plongé dans des problèmes géopolitiques qui vont petit à petit devenir plus prégnants. Mais la véritable question de ce premier tome, c'est cette autonomie que moi je pourrais dire, c'est ce que j'avais appris et compris jusqu'ici. C'est cette autonomie qu'on gagne, par exemple, en suivant une analyse, par rapport à l'héritage familial. Où est notre désir? Qu'est-ce qu'on choisit du désir qu'on nous transmet? Donc il y a cette espèce d'autonomisation qui est importante et puis qui est liée avec l'autolimitation de ce désir, pas au sens punitif, qui est vraiment alors pour le coup le rapport à la limitation. C'est un terme qui est repris malheureusement par des gens actuellement qui se revendiquent comme ça d'une forme d'écologie. Moi je parle pas de cette limitation là, je parle de limitation qui fait qu'à un moment on ne va pas chercher à désirer ce qui nous rend malheureux et que l'être, par exemple en psychanalyse, votre mère symbolique qui représente un tout et qui pourrait vous entraîner dans ce nouveau gouffre, ben finalement vous décidez d'en faire autre chose, d'aller vers autre chose. Le deuxième tome, c'est comme vous le disiez, c'est plus un désir qui est la question du désir propre par rapport à notre imaginaire hautement colonisé par notre société qui a mis donc le commerce et le marché au centre, enfin l'économie au centre de notre imaginaire. Et alors pourquoi la question du terrorisme? Parce qu'elle est aussi liée à ça. Pourquoi il y a beaucoup d'images qui font référence comme ça? On voit des Epiphanians devant leur télé, devant leurs jeux vidéo. Il y a ce rapport qui est une interrogation personnelle. Je veux dire, c'est pas à aucun moment je m'extrais et c'est plus vraiment une interrogation de moi, mon propre imaginaire d'artiste, puisque j'ai la chance de travailler sur et avec l'image qui est au centre des enjeux actuels. L'image est vraiment quelque chose qui est à la fois une énorme possibilité, mais d'imaginer autre chose, mais aussi une façon de nous faire penser d'une certaine façon. Donc c'est la question du désir, et le troisième tome, c'est la question de l'autonomie d'un désir collectif, et qui, où il y a de fait une visée plus globale et politique de pouvoir imaginer ensemble, en imaginant qu'on se soit destitué et autonomisé de ces deux premiers. Donc en fait, ces trois tomes ont chacun leur part d'autonomie.
Alors ce troisième tome, il commence donc avec la condamnation à mort de Koji et son père David qui vient le sauver et l'emmener dans une forêt où il y a une résistance encore possible. Et puis alors il y a un personnage qui est apparu dans le second tome et qui est là aussi dès le début de ce troisième. On le voit dans ces grandes planches que j'évoquais au début s'enfuir. Lui, il réussit à s'enfuir. C'est le personnage de Vespero. Mm-hmm. Vespero qui est cet homme chauve-souris qui est le terroriste en chef, on pourrait dire le chef du groupe. Et qui est un personnage qui est pour autant pas, puisque vous évoquiez à l'instant la question du terrorisme et de cet horizon possible pour certaines personnes. Vespero, qui n'est pas un personnage complètement univoque, et on sent que vous avez peut-être pas une tendresse pour lui, mais au moins quelque chose qui est, enfin, en tout cas de la fascination, et puis peut-être de la tendresse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce personnage et nous dire qui il est, ce que vous avez voulu en faire?
Oui, c'est le revers de la médaille, et en même temps, c'est la médaille elle-même. En imaginant qu'il n'y ait que Koji, qui a aussi sa complexité, ses ambivalences, mais enfin, il est beaucoup moins ambivalent que Vespero. Ça serait terriblement ennuyeux, quoi, un récit qui présenterait pas la possibilité dans une bande dessinée plurielle comme ça. Pour moi, c'est d'incarner tous les possibles, enfin tous mes possibles aussi, et tous mes visages. Donc, bien sûr, j'ai beaucoup de tendresse pour ce Vespero de la nuit, comme son nom l'indique, et le fait qu'il passe de on va pas tout dévoiler, mais le fait qu'il passe de cette figure quasi machiavélique, même si on comprend bien pourquoi. Enfin, il y a une histoire, c'est une historicité du personnage.
Une sorte de lucidité froide.
C'est ça. C'est ça. Il en veut vraiment. Il a une grande colère envers l'humanité. Et en même temps, il est irrémédiablement attaché à une pierre. Parce qu'il y a des histoires de pierres de naissance, mais qui sont... Voilà, on parlait d'autonomie tout à l'heure par rapport à les s'extraire de quelque chose. Mais lui, il est irrémédiablement attaché, voire drogué. Mais il va connaître une forme de retournement, de rédemption. Je dis bien une forme parce que ça reste le personnage insoluble dans cette histoire. C'est celui qui ne veut pas se résoudre totalement à suivre cette humanité qui pourrait peut-être s'en sortir ou pas. Et c'est important, c'est la voix discordante.
C'est le pôle de négativité aussi qui, de toute façon, quelle que soit la fin qu'on ne révèle pas complètement, doit subsister.
C'est ça qui donne le sens, son sens au positif. Ouais.
Alors ce Vespero, quand il arrive dans ce tome 3, donc au tout début, il donne lieu à une scène de combat, comme il y en a déjà eu dans les deux premiers tomes, mais celle-là est plus longue encore, elle dure plus d'une dizaine de pages, avec d'abord une poursuite en voiture et ensuite un combat aérien. On pense inévitablement à Spider-Man. Alors, Vespero, c'est l'homme chauve-souris, on pourrait penser à Batman, mais les buildings comme ça font plus penser à Spider-Man. Comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous gérez le rythme de votre récit? Parce que on sent que par moments, il faut avancer, il faut aller vite. Alors, il y a des grandes ellipses avec des récitatifs un peu longs. Et puis, en même temps, tout d'un coup, vous prenez le temps de dessiner ces 10 pages de combat.
C'est ça, qui rattrape une action qui dure peut-être 15 minutes, quoi.
Ouais,
alors que je résume en 6 pages, un mois, deux mois, trois mois.
C'est nécessaire de
est-ce que c'est, non, c'est une vraie question. Est-ce que c'est nécessaire de alors je pense que dans ce récit, c'est nécessaire, parce que c'est un récit qui joue avec le genre. C'est pas ce que j'ai fait jusqu'ici. Là, d'emblée, je me suis inscrit dans ce genre fantastique d'anticipation, enfin, peu importe le terme qu'on y mettra. Et du coup, y a des codes, et ça m'intéressait de questionner, de jouer avec ces codes, de voir ce que... Il y a de l'amusement aussi, hein, et aussi cette volonté de prendre le lecteur. C'est un peu une bande dessinée piège, quoi. C'est aussi piéger le lecteur dans un rythme pour aussi aller vers autre chose. Ça a été une vraie question. À un moment, je me suis retrouvé à dessiner ces pages. C'est-à-dire que le scénario était là, je savais qu'il y avait une bataille, je ne savais pas combien de pages ça allait prendre, sans les dessinant d'un seul coup. Il faut qu'en fait... Ce qui est important, ça c'est sûr, c'est qu'on y croit. C'est-à-dire qu'à un moment, cette bataille, elle était très emblématique entre d'abord Vespero et Koji, mais surtout entre Vespero et Bi. Elle allait révéler quelque chose d'elle-même. même à cet instant. Et il fallait qu'on comprenne quelque chose de ces personnages à travers cet affrontement. C'est un affrontement symbolique. Mais du coup, il faut quand même qu'il soit crédible et il lui faut un certain nombre de pages. Mais c'est vrai que en termes de rythme d'écriture, ça pose des questions. Et je me suis autorisé dans ce troisième tome à voir ce que vous avez commencé par lire, ces passages plus récitatifs avec des grandes pages. Mais parce que j'avais aussi envie de ça, j'ai changé entre le deuxième et le troisième tome. Il y a un léger changement de dessin, il y a un léger changement de rythme. Voilà, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que c'était aussi important pour moi de changer quelques petites, comme ça, quelques données.
Alors, vous évoquiez Bi, c'est la compagne de Koji, oui, qui va intervenir dans ce combat. Et en effet, vous évoquiez l'amusement ou le plaisir que vous aviez à dessiner ces scènes. Ça se voit aussi dans les couleurs, avec en particulier cette case qui fait plus d'une demi-page, qui révèle à Bi quelque chose d'elle-même. Et qui nous révèle, ce sont ses ailes qui poussent parce qu'elles étaient déjà apparues, mais qui grandissent d'un coup. Ces ailes rouges immenses, avec cet asphalte jaune, le t-shirt bleu qui éclate, la peau de Bi qui est mauve. On sent que dans les couleurs aussi, il y a une soumission aux lois du genre, mais un amusement en tout cas avec ces couleurs fantastiques qui rappellent les comics les plus classiques de super-héros.
Oui, non, moi je suis un fan de Kirby par exemple, et voilà, c'est plus à cette époque-là que je fais référence qu'à des choses beaucoup plus contemporaines, la bande dessinée dite de super-héros. Après, très sincèrement, pour ces ailes rouges, j'ai plus pensé à ces anges, vous voyez,
qui ont trois paires d'ailes en principe.
C'est
les,
vrai.
Les chérubins ou les... Est-ce que c'est les séraphins ou les chérubins, je ne sais plus.
Ouais, je sais pas, mais je pense à ces anges vraiment entièrement rouges, enfin qui sont quand même assez incroyables dans ces peintures classiques. En même temps, la couleur, elle est vive, elle est empreinte comme ça de ce code, et en même temps, elle a quelque chose d'un peu triste par endroit parce que je la salis et il y a cette espèce de désordre, quoi. C'est pas complètement idéalisé. Donc je joue avec cette espèce d'entre-deux.
Ouais, il me semblait que justement dans ces pages-là, il y avait une couleur qui devenait plus joyeuse, alors que sinon, en effet, dans l'ensemble, et les couleurs d'ailleurs redeviennent assez vite grises, mauves, bleu,
absolument,
bleu un peu sale, rose un peu sale.
On est dans une dominante comme ça, un peu bleuté, qui annonce quelque chose d'une fin ou peut-être d'un recommencement. Mais en tout cas, les ailes, c'est aussi une prise de pouvoir de cette femme. Et c'était vraiment emblématique. Il fallait qu'elle soit rouge, quoi. Il fallait qu'elle prenne toute la mesure de leur puissance.
Et ces couleurs reviennent, ces couleurs dominantes de la série reviennent assez vite, puisque après ce premier combat aérien, arrive le grand événement de ce début encore de troisième tome, qui est une nouvelle vague. Le premier tome, l'histoire commençait avec une vague qui apporte, on ne sait pas trop comment, les Epiphanians. Et là, une nouvelle vague, ça recommence, disent les personnages, plus grande encore, qui apporte des nouvelles créatures, qui là sont des géants, non plus hommes-animaux, mais hommes-végétaux, hommes-minéraux, hommes-métal, ou hommes-métaux, et qui sont des géants gigantesques. Alors, bon, il y a plein de questions avec ces géants, mais la première qui m'est venue, c'est comment est-ce qu'on les dessine? Vous parliez tout à l'heure de l'improvisation.
Ouais.
Comment est-ce que vous leur donnez leur visage, leur corps, leurs jambes? Pourquoi est-ce qu'ils sont d'ailleurs si anthropomorphes, on pourrait dire? On aurait pu imaginer d'autres formes.
Oui, on aurait pu imaginer, et peut-être que dans un autre contexte où j'aurais moins joué avec ce genre fantastique et ces codes, je leur aurais peut-être donné un côté beaucoup plus dégoulinant, beaucoup plus monstrueux. Mais c'était très important pour la suite du récit qu'ils ne soient pas irrécupérables et autant à l'extérieur de nous. Rien n'est tout à fait à l'extérieur de nous, c'est ce qui est important. Aucun des personnages ne nous est complètement étranger. Il ne s'agit pas, encore une fois, de pointer l'autre pour s'extraire de ses propres problématiques, quoi. On n'est pas dans un truc projectif. Et comment on les invente? Je travaille quand même depuis longtemps sur la figure du monstre, c'est quelque chose qui m'obsède. Et là, là, c'est complexe parce qu'en même temps, et je vous avoue que j'ai vraiment... pas du tout penser à ces films japonais d'où sortent des monstres de la mer. Enfin, on m'a fait me rendre compte après des parallèles. Ça me semblait évident qu'ils devaient sortir de la mer parce que on est dans ce rapport matriciel. Ça me semble évident parce que j'ai moi-même un rapport depuis toujours en tant que capnéiste avec la mer. Enfin, il y avait un truc de renaissance, etc., etc. Mais en tout cas, pour vous répondre très, très simplement, je les dessine assez peu en amont. Koji, en fait, j'avais fait comme j'avais écrit 5-6 ans avant le récit, j'ai eu le temps de dessiner un peu. Et en fait, quand je l'ai vraiment dessiné, il n'a pas eu du tout la tête que j'avais prévue. Et j'aime bien garder cette espèce de surprise.
Alors, ces géants arrivent... reprennent peut-être le travail là où les épiphéniens l'avaient laissé, échouant, c'est-à-dire peut-être éradiquer quelque chose de l'humanité. Ces géants commencent par tout détruire. Alors, les réactions, là, on a, dans les deux premiers tomes, je le disais, on a beaucoup de, plusieurs scientifiques qui tentent d'expliquer. Là, on a deux figures que j'ai identifiées. En tout cas, il y a celle du journaliste qui donne un commentaire parfaitement risible, faut bien le dire, puisque assez vite il dit 53 pays touchés, 3 millions de victimes, et ce chiffre des dégâts matériels, 900 milliards de dollars de dégâts matériels, comme si ça avait encore un sens, cette espèce d'information qui... Et puis alors l'autre figure peut-être encore plus importante ou intéressante, c'est la figure religieuse, parce qu'elle n'était pas présente dans les deux premiers. Mmh. Là, on a un religieux, un évêque en l'occurrence, il semble même un cardinal peut-être, catholique, qui exhorte, enfin qui dit quelque chose d'assez lucide sur la situation, mais qui termine en disant « La terre ne veut plus de nous, fuyez ». Alors, il ne prononce pas une fois le mot de Dieu. Mmh. Et puis alors il dit « fuyez », mais alors... Qu'est-ce que ça veut dire, fuir la terre? Qu'est-ce que vous avez... Pourquoi est-ce que les religieux arrivent maintenant?
Pourquoi je l'ai choisi, lui? C'est un religieux...
Il ressemble à Desmond Tutu, c'est un évêque noir.
On ne sait pas s'il a lui-même abandonné ses propres croyances. Il se passait quelque chose de singulier au moment où j'étais en train de faire ce troisième tome. J'ai eu l'intuition ou le désir de relire la Genèse. Je ne le lis pas tous les jours et ça faisait longtemps que j'avais pas lu la Bible. Et souvent, des fois, on est appelé comme ça par des lectures qui reviennent à notre conscience. Et en le relisant, je vois ces mots hyper forts de Dieu qui incitent, c'est une injonction à dominer et à servir la nature et le vivant. Et on retrouve ça après, quand Noé sort de son arche, les mots sont encore plus puissants. Et je me disais, mais c'est fascinant quand même, ce livre, le livre de trois religions, d'emblée, on projette, en tout cas, on ne va pas généraliser, en tout cas l'Occident, dans cette idée de l'homme au-dessus de la nature et dans ce rapport d'asservissement. Donc ça avait du sens. D'abord, ça s'appelle Epiphania. Il y a un rapport...
Epiphania, ça veut donc dire manifestation.
La manifestation, c'est ce qui...
Ça a été repris dans la religion chrétienne pour la présentation de Jésus au mage avec cette étoile du berger. Donc là, c'est aussi quelque chose qui est dans votre livre. Ces êtres arrivent avec des météorites ou quelque chose
comme ça. C'est ça, et on ne sait pas si... C'est ce qui reste d'ailleurs tout est élucidé sauf ça, en fait. Et on pense... On peut imaginer que c'est une forme d'insémination. Il y a la mer d'un côté, il y a ces étoiles de l'eau. Donc il y a une part mystérieuse.
Et il y a un savant dans le premier tome qui donne quatre hypothèses qui sont toutes les quatre intéressantes. L'hypothèse ésotérique, l'hypothèse superstitieuse, l'hypothèse écologique et l'hypothèse religieuse. C'est le seul moment où il y a le mot religieux.
C'est vrai.
Religion. Et il finit en disant, moi qui suis athée ou quelque chose comme ça, je commence à croire en Dieu. Et je me demandais, à la lecture du premier tome, je me disais, est-ce que c'est pas ça la clé? Mais en fait, vous tranchez pas, vous laissez tout ça ouvert.
Non, moi, je suis pas croyant, je suis agnostique, j'ai une approche assez scientifique des choses, bien que je puisse avoir ma grande part d'irrationalité, non, ça m'amuse de jouer aussi avec ces codes, ce sont aussi des codes, et ce sont même des lois, et ce qui me semblait important, c'est-à-dire que moi, j'ai rien contre la religion tant qu'elle n'est pas elle ne représente pas une perte d'autonomie dans le sens, on parlait encore d'autonomie dans le sens de mettre à l'extérieur de l'homme des lois qui c'est-à-dire les lois divines ne peuvent plus remettre en question. Donc la question de la religion, elle est présente parce que c'est aussi ma culture. Donc il me semble important de l'interroger au même sens que d'interroger l'économie.
Alors, on va pas dévoiler la fin du livre, mais le troisième tome, la conclusion du récit, c'est aussi l'occasion de revenir sur ce qui irrigue les trois. Et vous l'avez déjà un peu évoqué, Ludovic de Burme, mais il faut quand même rappeler que le premier tome s'ouvre sur l'histoire d'un couple, David, le père adoptif de Koji, et Jeanne, qui vont dans un love training camp, un camp d'entraînement amoureux, puisqu'ils n'ont... Ils n'ont plus de désir. Il y a un problème, en tout cas. Ça s'ouvre sur la question du désir sans but, du désir perdu ou de l'absence de désir. Et ça se termine, on peut dire, un peu sur ce lien encore entre désir, ce désir qui est aussi la question centrale de Koji qui pense à ses origines et qui est conçu sans désir d'une certaine façon. On sait pas d'où, lui-même ne sait pas d'où il vient. Et ça se termine sur ce lien entre désir et imaginaire et peut-être la place de l'artiste que vous êtes pour irriguer un nouvel imaginaire, donner quelque chose? Est-ce que c'est aussi une des fonctions de ce livre, si on peut dire qu'il a une fonction, ou quelque chose que vous avez envie de faire, d'ouvrir un imaginaire pour ouvrir un possible?
Alors, ça serait vraiment extrêmement présomptueux d'imaginer que je puisse, en tant qu'artiste, avoir un impact aussi important sur l'imaginaire collectif, mais
d'abord sur le vôtre peut-être,
mais déjà sur le mien et sur celui de mes lecteurs peut-être. L'idée, s'il doit en avoir une, ça serait de favoriser, de donner envie, de donner le désir aux lecteurs de cultiver leur propre imaginaire, loin justement des codes dont on vient de parler, que j'interroge au fur et à mesure de ces trois tomes, parce que c'est ça qui me semble essentiel actuellement, c'est de pouvoir réinventer quelque chose collectivement. Mais ça, c'est possible que si individuellement, on a déjà fait un peu le nettoyage, quoi. Il y a un travail à faire, et je pense qu'en tant qu'artiste, on a cette responsabilité de s'interroger nous-mêmes sur notre propre imaginaire et la façon dont il a été travaillé, baigné en effet à la fois de culture, mais aussi dans une société qui ressemble peu à d'autres sociétés du passé, et d'interroger ça précisément, ça serait beaucoup trop long d'en parler, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'en tout cas, répondre à la question du désir et à son autonomie permet d'imaginer au sens de créativité, et là je ne parle pas que de fantaisie, hein, et pourtant la fantaisie est essentielle. Donc c'est une vraie place que celle de l'artiste dans la société.
Alors, ce que vous dites sur les sociétés du passé me pousse à vous poser une dernière question sur la possibilité d'un ailleurs sur la Terre, puisque cette action d'Epiphanian se passe, on suppose, aux États-Unis. Il y a des indices qui nous laissent penser, temporellement, on ne sait pas trop, il y a des ordinateurs portables, mais les voitures sont plus des années 50, enfin, ça c'est un monde autonome, mais on ne sait pas s'il y a un ailleurs. Vous parliez des sociétés du passé, mais là on pourrait imaginer des sociétés, en tout cas non occidentales par exemple.
Absolument.
Est-ce qu'il n'y a jamais un regard extérieur sur ce qui se passe? Donc, ça aurait pu être une possibilité aussi d'avoir un œil autre sur la Terre, sur ce qui se passe dans cet endroit d'Epiphanians.
Je suis absolument d'accord avec vous, et c'est aussi la part qu'on laisse à la fin de chaque livre, qui n'est pas encore travaillée, qui sera certainement l'objet du prochain livre, c'est aussi d'interroger aussi les autres sociétés qui n'ont pas suivi ce modèle.
L'objet de prochains livres et de savantes exégèses pour Epiphanie, parce qu'il y a de quoi dire sur ces livres. Merci beaucoup Ludovic Debeur.
Merci beaucoup à vous.
On va se quitter en musique parce que vous êtes aussi musicien, et on va écouter un morceau que vous allez peut-être nous présenter, Dark Spaces, qui est du groupe Father Kid, que vous constituez avec Fanny Michaelis,
qui est auteure de bande dessinée, illustratrice, et qui a réalisé les couleurs du premier et du deuxième tome, et avec qui effectivement en plus d'avoir un enfant, nous avons un groupe de musique depuis quelques années déjà. Slippery town, where people
always weeping around. Le Rayon BD, c'est terminé pour aujourd'hui. L'émission était comme chaque semaine préparée par Pascaline Bonnet. Pascal Baudin était aujourd'hui à la technique et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. La semaine prochaine, nous serons au rendez-vous de l'histoire de Blois avec Pascal Horry pour parler de bande dessinée historique. Mais dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau pour le magazine de l'environnement de Cause à Effet.